propose que nous lisions d'abord dans le psaume 122. C'est un cantique des degrés de David. Je me suis réjoui quand ils m'ont dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds se tiendront dans tes portes, ô Jérusalem. Jérusalem qui est bâtie comme une ville bien unie ensemble en elle-même. C'est là que montent les tribus de Jah, un témoignage à Israël pour célébrer le nom de l'Éternel. Car là sont placés les trônes de jugement, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, ceux qui t'aiment prospéreront. Que la paix soit dans tes murs, la prospérité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes compagnons, je dirai que la paix soit en toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je rechercherai ton bien. C'est un cantique des degrés. Les cantiques des degrés commencent, nous le savons, je suppose, au psaume 120. Et se termine 15 psaumes plus loin, au psaume 134. Les psaumes chantés par le résidu, je dis la position d'un frère, qui s'appelait donc Kélie, que c'était le résidu de Babylone, qui a répondu à l'appel de Cyrus pour remonter à Jérusalem. Le peuple avait été dispersé à Babylone à cause de ses péchés. L'Éternel avait estimé qu'il l'avait assez averti et que donc maintenant il permettait aux Chaldéens d'emmener le peuple et de détruire la ville. Maintenant, le fait que dans le psaume 120, au verset 5, nous voyons « Malheur à moi de ce que j'ai séjourné en Méchec que je demeure avec les tentes de Kédar. » Il y a donc, il semble donc que là, il s'agisse de ce qui arrivera à la fin des temps, après le règne de l'Antichrist et l'invasion de l'Assyrien, pour le résidu fidèle qui sera encore dispersé. À Méchec au nord d'Israël, Kédar au sud. C'est la ville d'Henri Rossier. Quoi qu'il en soit, il s'agit de personnes qui ont été éloignées du pays. Et voici, ils y retournent. Au psaume 120, « Que mon âme est tant demeurée avec ceux qui haïssent la paix. Je veux la paix, mais si j'en parle, ils sont eux pour la guerre. » Et puis au 121, « Alors ils vont chercher du secours. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où vient mon secours ? Mon secours vient d'auprès de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et voici rejeté sur l'Éternel. Il cherche le secours où il se trouve en vérité, non plus vers des montagnes. Les montagnes, dans l'Écriture, nous le savons, symbolisent les puissances de la terre. Mais et là, ils ont compris que c'était l'Éternel qui a fait les cieux et la terre qui seul peut les secourir. Et puis on arrive au psaume 122. Le voici donc en marche. Et il y a ce premier verset qui est remarquable. Je me suis réjoui quand ils m'ont dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je me suis réjoui. Bien sûr, si on lit l'Ancien Testament, c'est pour faire des parallèles avec ce qui est notre part à nous, dans la sphère chrétienne, dans la sphère dans laquelle nous sommes maintenant. La maison de Dieu, maintenant, c'est l'assemblée du Dieu vivant. L'assemblée, l'ensemble de ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, qui sont scellés du Saint-Esprit, et qui ont reçu, par le Saint-Esprit même, liés les uns aux autres, comme les membres d'un corps le sont les uns aux autres, et à la tête glorifiée. Quand j'emploie le mot assemblée, je parle de cela. Je ne parle pas nécessairement de l'assemblée des frères, mais de l'assemblée de Dieu. L'assemblée de ceux qui ont cru, qui ont reçu la parole de la vérité, et qui ont cru l'évangile de leur salut, l'assemblée de ceux qui sont certains de leur salut, car c'est la certitude de salut et le sceau de l'esprit vont ensemble. Et quelqu'un qui n'est pas sûr de son salut, on peut se demander s'il est scellé d'esprit. C'est important, il faut que que nous le comprenions et que les plus jeunes en particulier sachent s'ils sont sauvés ou s'ils ne sont pas sauvés. Et c'est simple, c'est tout simple. Être sauvé, comment ? Par la foi au Seigneur Jésus, la foi, c'est l'évangile du salut, la foi en son œuvre accomplie à la croix. Il est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Voilà la vérité, voilà ce que le croyant croit, la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend par la parole de Dieu. Et voilà sur quel terrain se trouve le croyant. Tant qu'il y a des doutes, à savoir si vraiment je puis être sauvé, si vraiment il ne faut pas faire quelque chose pour être sauvé, si vraiment je trébuche, je suis à nouveau perdu, toute pensée qu'on trouve dans bien des milieux autour de nous, eh bien nous devons résister à ces pensées-là. Notre salut est en Christ, il n'est pas en nous-mêmes, il ne peut pas être en nous-mêmes. Nous ne pouvons rien faire pour notre salut. La preuve, c'est que dans les Éphésiens, il nous est dit que nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. Qu'est-ce que peut faire un mort ? Il ne peut plus rien faire. Un mort, il est mort. Il ne peut plus agir, il ne bouge plus. Alors, nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés, mais Dieu, à cause de son grand amour, alors que nous étions morts, il nous a vivifiés, il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. C'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas nous. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvions pas nous sortir de la mort. C'était impossible. Il faut que le Seigneur soit intervenu pour que nous ayons, pour que nous recevions la vie en Christ, cette vie éternelle qui est en Christ. C'est ici la vie éternelle, n'est-ce pas, qu'il te connaisse seul vrai Dieu et son Fils, Jésus-Christ. La vie éternelle est là. Elle est en Christ. Et si nous avons cru au Seigneur Jésus, nous sommes nés de nouveau et nous avons cette vie éternelle. C'est un point duquel il ne faut jamais douter. Après, nous sommes bien sûr appelés à marcher d'une nouvelle vie, d'une nouvelle façon, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, parce que nous avons cru au Seigneur, nous sommes confiés au Seigneur, et le Seigneur nous appelle donc à marcher d'une autre façon. Nous avons été créés pour les bonnes œuvres, préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Même les œuvres, nous n'avons même pas à les chercher. Les œuvres, elles se présentera devant nous, elles se présenteront devant nous. Les œuvres sont préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. Nous n'avions qu'à suivre la conduite du Saint-Esprit. Il nous conduira par sa parole, par la parole du Seigneur. Il nous dira, c'est ici le chemin, marchez-y. Et voilà donc le chemin du chrétien. Il n'y a pas quelques bonnes œuvres, quelques œuvres méritoires qu'il s'agit de faire. Il s'agit de se confier dans le Seigneur. L'adversaire essaie toujours de faire douter les croyants. Toujours. Je rencontre bien du monde comme ça, des croyants que j'estime être des enfants de Dieu, mais quant à leur assurance de salut, sont toujours dans la perplexité. Je suis sauvé, on est sauvé, bien sûr, on est sauvé parce qu'on est au Seigneur Jésus. Mais si on pêche, évidemment, alors on est perdu. Et non, on n'est pas perdu. Du moment qu'on est passé de la mort à la vie, comment pourrait-on retourner dans la mort ? Nous sommes passés de la mort où nous étions à la vie dans laquelle nous sommes maintenant. Le problème, c'est que dans le croyant qui a une nouvelle vie que Dieu lui a donnée, il y a encore la chair, il y a encore la vieille nature. Et lorsque nous ne marchons pas par l'esprit, eh bien c'est la chair qui agit. Il n'y a pas de milieu. L'apôtre peut dire dans les Galates, « Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. » Eh bien oui, il n'y a pas de milieu. Nous ne pouvons pas dire, « Bon ben je vais être neutre, je ne vais plus rien dire. » Non, ce n'est pas ça. Nous sommes obligés d'agir. Nous sommes faits de telle manière que nous sommes obligés d'agir. Nous sommes dans un monde, il faut agir. Nous agissons par l'esprit ou nous agissons par la chair. Si c'est par la chair, bien entendu, il y a le témoignage qui est manqué d'abord, mais il y a surtout la tristesse dans le cœur, la tristesse dans l'esprit, la joie est partie, plus de joie, n'est-ce pas ? Une conscience chargée, la seule chose que nous ayons à faire, c'est de revenir au Seigneur et dire « j'ai péché ». J'ai péché, donc voilà, alors le pardon est là. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Mais ce n'est pas le pardon, ce n'est pas le pardon du point de départ, ce n'est pas le pardon du salut. Nous sommes sauvés. Mais nous avons besoin d'être pardonnés tout au long de notre vie, parce que je suppose que tous ici sont bien d'accord pour dire que tout au long de notre vie, il y a des faux pas. Et on trébuche, Bon, eh bien, tout au long de notre vie, nous avons besoin du pardon de Dieu. Et il le donne si nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Mais il dit ça à des croyants. C'est pas aux incrédules. Aux incrédules, il faut d'abord qu'ils se repentent et qu'ils croient. Et lorsqu'ils sont croyants, eh bien, ils ont quand même besoin du pardon des péchés parce que constamment nous sommes. La chair se manifeste en nous. Et ce pardon, eh bien, Dieu le donne, voilà. Il est fidèle et juste. Fidèle envers le Seigneur. Juste envers le Seigneur. Fidèle envers le Seigneur, puisque le Seigneur est venu pour sauver justement les hommes pécheurs, juste parce que sa sainteté a été satisfaite par l'œuvre de la croix, alors Dieu ne peut pas redemander encore l'expiation des péchés, elle a été faite, et il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés. C'est la confession qui nous fait rester si longtemps, quelquefois loin de Dieu, manquant de la communion. Ça, j'en suis persuadé, je le dis souvent, par expérience, j'en suis persuadé, je ne juge personne. Mais par expérience, je sais qu'on a trébuché, on a conscience d'avoir mal fait, on a conscience chargée, on connaît le chemin, il suffit de venir au Seigneur et de dire « j'ai péché », et puis qu'est-ce qui nous retient si longtemps, loin de ce geste, ce pas à faire ? C'est pas pour les uns, c'est une chose, pour les autres, c'est autre chose. Mais en fait, surtout, c'est parce qu'on est vexé d'être tombé. Notre amour propre a été blessé. Il y a dans notre cœur un orgueil incommensurable. Et ça, c'est vraiment l'ennemi, l'orgueil, n'est-ce pas ? Si nous étions plus simples, si nous suivions simplement la direction de la parole sans s'occuper de notre moi, sans s'occuper de ce que nous pensons de nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de penser de nous-mêmes, mais que vous verrez l'Écriture. L'Écriture nous dira ce que nous devons penser de nous-mêmes. Rien de bon dans l'homme, c'est clair. Le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Voilà ce que l'Écriture pense de nous-mêmes. Et ce que nous devons penser de nous-mêmes. On ne peut pas améliorer la chair. Dieu n'a pas pu améliorer la chair sans la loi, sous la loi. Dieu n'a pas. Alors, il l'a mise à mort. Et ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions. Voilà la position du croyant. Ils ne sont pas, quant à l'homme, ils sont pas plus parfaits qu'aucun autre. Nous ne sommes pas supérieurs à des incrédules. Mais il a plu au Seigneur Jésus de nous tirer de notre misère et de nous amener là, dans les lieux célestes, assis en lui dans les lieux célestes. Il a plu au Seigneur. Hein. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. Hein. C'est lui qui l'a fait. Si on compte à nous-mêmes, eh bien, ce n'est pas la peine de nous mesurer avec des incrédules. Nous sommes de la même racine, la racine d'Adam. L'homme, le seul homme qui soit devenu pécheur en péchant. C'est une chose aussi qu'il faut retenir. Quand nous avons à parler des choses de Dieu à ceux qui nous entourent, disons-le, n'est-ce pas que nous sommes pécheurs de nature. On ne devient pas pécheur parce qu'on pêche. C'est Adam qui est devenu pécheur parce qu'il a péché. On devient pécheur maintenant, on pêche maintenant parce que nous sommes pécheurs. Nous sommes nés pécheurs. Alors nous péchons. La nature porte ses fruits, et c'est le fruit du pécheur, c'est le péché. Mais si nous sommes venus au Seigneur, alors nous avons une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature désire suivre la volonté de Dieu. Elle désire marcher en communion avec Dieu. Elle est heureuse lorsqu'elle marche en communion avec Dieu. Elle est heureuse de pouvoir parler à son Dieu, de pouvoir parler au Seigneur, de marcher avec lui. Cette nouvelle nature, ce n'est pas parce que nous sommes, comment dirais-je, supérieurs à d'autres, mais la nature est ainsi faite, la nature divine est ainsi faite qu'elle aime marcher dans la parole de Dieu, par exemple, qu'elle aime se laisser conduire par l'Esprit. Nous avons cette nature elle-même. Et nous avons besoin de tenir la vieille nature dans la mort, crucifiée, la chair et ses passions, et de marcher par l'Esprit. C'est un point pour individuel, on peut dire. Ça. Si quelqu'un ici n'a pas cette joie de la communion avec le Seigneur, eh bien, il n'y a pas d'autre chemin que la confession et l'acceptation du pardon de Dieu. Pour tous, les plus âgés et les plus jeunes. Il y a bien toujours quelque chose qu'il faut confesser, même chez les plus âgés. peut-être plus. Ils ont une plus longue vie, alors il y a beaucoup plus de péché derrière. Mais les plus jeunes aussi ont besoin de savoir qu'ils n'approcheront du Seigneur que par la confession, la repentance et la confession. Ne nous écartons pas d'un certain exemple que l'Écriture nous donne, celui du brigand. Pour nous, c'est justice. Nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Voilà, voilà. Voilà, voilà l'homme qui confesse ce qu'il a été, un brigand. Il n'a pas cherché à dire qu'il n'était pas, seulement il voulait quand même entrer dans le royaume. Alors il se tourne vers le Seigneur, « Seigneur, souviens-toi de moi. » Bon, il ne peut pas dire que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ou mesurer tous les bienfaits qu'il a pu accomplir. Le bon larron et le mauvais larron, ça c'était une histoire de catholicisme, j'y étais. Mais non, il n'y a rien de semblable dans l'Écriture. Il dit, « Souviens-toi de moi, tout ce qu'il peut dire, souviens-toi de moi, Seigneur. Et aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà la réponse. Enfin, la grâce de Dieu qui agit, qui est en action envers un pécheur, envers un des pires pécheurs, voilà la grâce de Dieu en action. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est même pas le royaume à venir que ce pauvre homme espérait et entrevoyait dans sa pensée juive. Non, c'est aujourd'hui que tu seras avec moi dans le paradis. Eh bien, quiconque ici serait dans un état de péché grave, par exemple, ou pas grave, ça fait rien. De toute façon, le salaire du péché, c'est la mort. Grave ou pas grave. Le petit mensonge mérite la mort, comme le scandale est considérable, le péché mérite la mort. Oui. Bien, si quelqu'un était dans un tel état, le seul chemin, c'est de dire au Seigneur, voilà, j'ai péché, j'ai péché. Alors, le Seigneur nous dira, comme il a dit à David, aussi, que j'ai fait passer ton péché de dessus toi. Ah, il y a des conséquences, sans doute il y a des conséquences. Mais je suppose que quand on est passé par je parle d'expérience encore, que lorsqu'on a allé jusqu'à confesser ce que l'on est et le péché dans lequel on est tombé, eh bien, la grâce de Dieu agit même pour les conséquences et nous donne la capacité d'accepter les conséquences. Conséquence, c'est le gouvernement de Dieu, ce qu'on appelle le gouvernement de Dieu. C'est un mot un peu, on dirait, un peu technique pour nous, mais voilà. Gouvernement de Dieu, c'est-à-dire que, bon, si on a volé, on fait la prison. Voilà, bon, c'est ça, il faut l'accepter. Donc, si différents péchés qui entraînent des conséquences, acceptons des conséquences. Mais quant à la relation avec Dieu, dès que nous avons confessé le péché, la relation est rétablie parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, parce que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner le péché, nous purifier de toute iniquité. Alors, voilà ce qu'il en est pour l'individu. Mais ici, dans ce psaume 122, je reviens donc au texte auquel j'avais pensé, ils se réjouissent d'aller à la maison de l'Éternel. Alors le parallèle, je l'ai dit, donc c'est amené cette digression, le parallèle à faire, c'est avec l'assemblée de Dieu, l'ensemble des croyants qui sont liés à la tête glorifiée. L'édifice dans lequel Dieu demeure. Ici, la maison de Dieu à Jérusalem, c'était la maison que l'Éternel avait fait construire sur le lieu qu'il avait choisi pour y faire habiter son nom. Nous sommes, nous aussi, appelés à manifester l'Assemblée de Dieu. Ne disons pas que nous sommes l'Assemblée de Dieu. Si nous sommes réunis à deux ou trois au nom du Seigneur, nous ne serons pas l'Assemblée de Dieu, vivrons. Il y a des quantités de chrétiens autour de nous qui sont aussi au Seigneur. Mais être réunis autour du Seigneur, c'est le noyau, c'est le principe de l'Assemblée de Dieu. Et nous voici rassemblés là. Nous le faisons, je suppose, ici comme ailleurs, dimanche après dimanche, par exemple. Car dans l'Assemblée de Dieu à Jérusalem, dans la maison de Dieu à Jérusalem, on se réunissait, Jésus se réunissait pour offrir les holocaustes, les sacrifices de prospérité, tout le culte que l'Éternel attendait de son peuple partait de là, de la maison qu'il avait choisie à Jérusalem. Eh bien, le culte que le Seigneur attend des siens maintenant, eh bien, il est rendu là, autour de la table qui rappelle le sacrifice, et il est rendu par ceux qui sont à lui, par ceux qui sont certains d'être à lui, qui savent qu'ils sont sauvés par le sacrifice qu'il a accompli. Et voici rassemblés autour de sa table pour célébrer, pour annoncer sa mort, car le sacrifice parle toujours de mort. Eh bien, voilà. Et là, nous pouvons nous réjouir autour de lui. Alors, une question, est-ce que nous nous réjouissons vraiment de venir à l'Assemblée ? à la maison de Dieu. Est-ce que nous pourrions dire, comme cet homme, je me suis réjoui quand ils m'ont dit, allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que nous nous réjouissons, ou bien est-ce que nous tenons la chose pour une corvée? Est-ce que parce que nous avons été élevés dans l'assemblée, nous estimons que bon, bah, c'est une tradition qu'il faut continuer, nos pères ont été là, et les fils doivent y être aussi. Là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de l'homme qui se réjouit. Il a été privé, lui, de la maison de Dieu parce qu'il a été dispersé à cause des péchés du peuple. Et voici qu'il peut revenir. Et il revient. Je me suis réjoui quand ils m'ont dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est une réjouissance de venir à la maison de l'Éternel. C'est une réjouissance pour un croyant de venir à l'Assemblée. C'est une réjouissance. Sinon, ce n'est pas la peine d'y venir. Il faut que le cœur soit engagé. Il faut venir là, se réjouir d'être avec le Seigneur, d'être autour du Seigneur. Ça, c'est important. Il y a dans l'Exode, au chapitre 12, je crois, c'est dans Deutéronome, au chapitre 12. Et l'expression que je souligne assez souvent, mais qui est parlante. Chapitre 12, verset 5. Vous chercherez le lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira d'entre toutes vos tribus pour y mettre son nom, le lieu où il habitera, et vous y viendrez, et vous apporterez là vos holocaustes, et vos sacrifices, et vos dîmes, et l'offrande élevée de vos mains, et vos vœux, et vos offrandes volontaires, et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Et là, vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu. Et vous vous réjouirez, vous et vos maisons, dans toutes les choses auxquelles vous aurez mis la main, dans lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni. Vous mangerez là devant l'Éternel, votre Dieu. Et vous vous réjouirez. Dieu veut avoir son peuple autour de lui et voir son peuple se réjouir. Il veut avoir son peuple et manger avec lui. C'est l'intimité, c'est la communion. C'est la communion manifestée par ce repas. Je dis souvent, c'est comme un père de famille qui rassemble ses enfants. Les enfants sont peut-être éloignés ici et là, et puis quand même quelques fois dans l'année, eh bien on rassemble, on fait une fête de famille, et le père est là, et les enfants sont autour, et on se réjouit. Ce devrait être comme ça, à la table du Seigneur. On se réjouit d'être là, autour de sa table, autour du Seigneur, autour de sa table, et on mange là, on mange ensemble. Bien sûr, nous ne sommes pas un peuple terrestre, il ne s'agit plus d'avoir des veaux, d'avoir des bœufs, des taureaux, n'est-ce pas ? Il s'agit d'être dans le domaine spirituel, mais c'est le principe, même principe. Dieu aime voir les siens réunis. Trois fois l'an, tous les mâles en Israël devaient se rendre à Jérusalem, pas ailleurs. À Jérusalem, parce que l'Éternel avait choisi ce lieu de rendez-vous, à Jérusalem. Et alors il devait y aller à Pâques, il devait y aller à la Pentecôte, il devait y aller à la fête des tabernacles. Et là, ils se réjouissaient, ils mangeaient ensemble devant leur Dieu, et ils se réjouissaient. Et quand ce psalmiste dit, eh bien voilà, je me suis réjoui quand ils m'ont dit, allons à la maison de l'Éternel. Nous pourrons nous poser la question, nous, si nous nous réjouissons toujours de venir à l'Assemblée. C'est pourtant le désir du Seigneur. Il ne nous fait pas, il ne nous demande pas de nous réunir pour que, voilà, pour passer un moment, n'est-ce pas ? C'est pas une distraction. C'est le plaisir d'être avec le Seigneur et d'être autour de lui, d'être autour de sa table et d'y être ensemble. Communion avec le Seigneur, communion les uns avec les autres. Et ça, c'est important, nous devons considérer ces choses. Hein. Et alors le psalmiste voit donc un peu plus loin, nos pieds se tiendront dans tes portes, ô Jérusalem. Jérusalem qui est bâtie comme une ville bien unie ensemble en elle-même. Pour voir l'amour des Juifs à l'égard de Jérusalem, il nous faudrait lire quelques versets dans le psaume 137. Auprès des fleuves de Babylone, là nous nous sommes assis et nous avons pleuré. Et quand nous nous sommes souvenus de Sion, au sol qui était au milieu d'elle, nous avons suspendu nos harpes. Car là, ceux qui nous avaient emmenés captifs nous demandaient des cantiques, et ceux qui nous faisaient gémir de la joie. Chantez-nous en des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous un cantique de l'Éternel sur un sol étranger? Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite s'oublie, que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens de toi, si je n'élève Jérusalem au-dessus de la première de mes joies. » Voilà le sentiment de ceux qui se trouvaient donc à Babylone à l'égard de Jérusalem, qui était la ville choisie par l'Éternel pour y faire habiter son nom. Nous voyons d'abord, il pleurait, n'est-ce pas ? Nous sommes assis et nous avons pleuré quand nous nous sommes souvenus de Sion. Et oui, pourquoi était-il là, autour, auprès des fleuves de Babylone ? À cause de leur péché. À cause de leur péché, et l'Éternel les avait avertis sans cesse, le vent de bonheur, les dit dans, à la fin du livre des Chroniques. Et puis, voilà, on se moquait de ceux qui avertissaient, on les renvoyait. Alors, finalement, la coupe a débordé et l'Éternel a chassé son peuple. Voilà. Et ils ont pleuré. Bien sûr. Ils ont pleuré parce que leur pays était perdu, parce que Jérusalem était perdu. Ils ont été éloignés à 2000 km ou 3000 de Jérusalem. Et voici, ils ont pleuré. Ils étaient esclaves, devenus esclaves, et ils ont pleuré. Ils se souvenaient de Jérusalem. Ils avaient suspendu leur âme, il n'y avait plus de joie, plus de joie. Lorsqu'on s'est éloigné, en fait, lorsqu'on s'est éloigné de la présence de Dieu, il ne peut plus y avoir de joie. J'entends la joie vraie, la joie. Que votre joie demeure, Seigneur. La joie du cœur, la joie profonde du cœur, qui n'est pas forcément exubérante, qui n'est pas comparable à de la gaieté. On peut avoir la joie dans le cœur sans être dans la gaieté. On peut être en deuil et y avoir quand même au fond du cœur la joie. La joie qui demeure. Celle que procure le Saint-Esprit, justement. Le fruit de l'Esprit, c'est la paix, la joie, l'amour. Eh bien, ce fruit de l'Esprit peut être dans le cœur d'un homme qui est pourtant affligé, qui pleure dans un deuil, dans une maladie, que sais-je. Il y a tant de circonstances affligeantes dans la vie d'un homme, et pourtant la joie reste dans son cœur. Ne confondons pas la joie et la gaieté. La gaieté, je crois qu'il en est question que deux fois dans l'Écriture, et toujours d'une façon, d'une manière, comment dirais-je, plutôt très légère. Et Agag, le roi que Saül aurait dû exterminer, qui, lorsqu'on l'appelle, vient joyeux vers Samuel, qui va le mettre à mort. Voilà la joie du monde. La joie du monde, c'est rien. C'est la gaieté. La gaieté, c'est rien. C'est une gaieté passagère. On essaye de se distraire autant qu'on peut. On essaye de se distraire pourquoi ? Pour oublier la réalité des choses. Pour oublier le sérieux des choses. Alors, il y a maintenant dans notre monde tellement de distractions qu'il y a des personnes qu'on ne peut jamais atteindre. Je me souviens, il y a seulement... Pas, il n'y a pas bien longtemps, il y a quand même une trentaine d'années, je faisais du colportage dans l'Ardèche. Il y avait une heure où on pouvait atteindre tous des paysans. Bon, vers 6 heures du soir, au moment des calendriers, bien sûr, il fait nuit, à 6 heures du soir, on pouvait se présenter dans les maisons. Alors il y avait quelqu'un, on était reçu, on parlait, on présentait le calendrier, accepté ou pas, on pouvait parler des choses de Dieu, on vous faisait asseoir, on vous offrait une soupe, tout ça. Il y avait un contact. Puis après est venue la télévision, terminé. Contact, terminé. Vous pouvez frapper aux portes, c'est l'heure du film, personne ne vous entend. Alors, il n'y a plus de contact. Alors tout était réduit à quelques heures dans la journée, on rencontrait qui dans la journée, des dames qui faisaient leur travail du ménage. Quoi. Mais quant au contact qu'on pouvait avoir avec les hommes de ces campagnes, il n'y a plus de l'avoir parce qu'il y avait une distraction de l'ennemi à placer devant eux et qui leur prend tout leur temps. C'est bien ça. Un de nos voisins nous disait, oh, mais si vous arrivez quelque chose, on sera là. Alors, il a répondu, vous serez là. Si c'est à 8 heures du soir, vous n'entendrez même pas qu'on a besoin de vous. Vous êtes là devant votre poste, fixé, vissé là sur une chaise devant le poste, vous n'entendrez rien. C'est invraisemblable, comme cet appareil est devenu funeste pour les hommes. Parce que ça les empêche de réfléchir, ça les empêche de considérer les choses en vérité. Ils sont là. Alors, on leur fait un lavage d'esprit, n'est-ce pas, parce que c'est un lavage de cerveau. Entendant répéter toujours les mêmes choses, ils arrivent à les croire comme ça, sans plus. Et tout le monde pense la même chose, c'est l'uniformité vers laquelle nous allons d'ailleurs, nous allons vers le mondialisme, et nous allons vers le règne de la bête, et les marques d'Avette seront sur le front des gens, sur le cerveau des gens, et ça commence déjà, n'est-ce pas? Voilà. Mais nous sommes, nous, mis à part de cela, tout au moins, nous sommes mis à part. Je ne sais pas si nous restons à part. Je ne sais pas pour chacun d'entre nous qui sommes ici, si nous savons rester à part de cela. Mais le Seigneur nous a placés à part. Ils ne sont pas du monde, donc moi je ne suis pas du monde. Oui, alors est-ce que nous tenons à part? Nous ne pouvons pas vivre comme le monde autour de nous. Être chrétien, comment dirais-je, être nourri du Seigneur, être nourri de sa parole, être en communion vivante avec lui, et vivre comme le monde autour de nous, passe son temps, n'est-ce pas, à des choses sans valeur. Je reviens à ce psaume 122 qui a bien des choses à nous apprendre. Alors le psalmiste voit Jérusalem. On a dit au début, Jérusalem est décrite soit par le Chaldéen, soit par l'Assyrien. Jérusalem qui est bâtie comme une ville bien unie ensemble en elle-même. Et il voit la ville telle que Dieu la voit. Bien unie en elle-même. Ville qui est bâtie comme une ville bien unie ensemble en elle-même. C'est comme ça aussi que le Seigneur voit son assemblée. Il la voit unie. De l'unité, ton église est belle, chantons-nous dans un cantique. On n'ose pas le chanter parce que ce n'est pas une évidence comme témoignage, mais pour le Seigneur, c'est cela. C'est cela. Son assemblée est unie en elle-même. Quand il va se la présenter dans un instant, quand nous allons être enlevés à sa rencontre, il n'y a pas un des siens qui manquera de la voie de commandement. Et nous serons tous rassemblés autour de lui. Et il se présentera à l'assemblée à lui-même, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais, il faut bien le texte, je suppose, n'est-ce pas, il est dit, il se la présentera à lui, c'est lui qui se la présentera. Ce n'est pas nous qui allons nous présenter sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Non. Nous avons mis les taches et rides, bien sûr. Mais lui, il se la présentera. Il se présentera à tous les siens réunis. Ils sont un seul corps, déjà, ils sont un seul corps par le Saint-Esprit, mais il se présentera cette assemblée à lui-même. Et puis ce sera les noces de l'agneau, nous savons, n'est-ce pas? Mais nous pouvons voir déjà du côté du Seigneur, voir cette assemblée, ce qui nous évitera justement d'être limités aux quelques-uns que nous connaissons, aux quelques-uns que nous fréquentons. Nous verrons pas, mais nous comprendrons qu'il y a des multitudes d'hommes qui quand même se sont tournés vers le Seigneur, sans peut-être savoir grand-chose, sans peut-être avoir beaucoup d'assurance, mais qui confessent quand même son nom. Et alors, voilà son assemblée, lui la voit. Nous ne la voyons pas, mais lui la voit. Et ce psalmiste, vous voyez, est donc Jérusalem comme une ville bien unie ensemble en elle-même. C'est là que montrent les tribus de Jacques, un témoignage à Israël pour célébrer le nom de l'Éternel. Il fallait aller à Jérusalem, je le répète, pour célébrer le nom de l'Éternel. Eh bien, voilà, nous sommes, par la grâce de Dieu, informés de ce qu'est l'Assemblée de Dieu. Nous avons été aussi, par la grâce de Dieu, réunis quelques-uns pour manifester en un certain endroit ce qu'est l'Assemblée de Dieu. Oh, c'est pas bien compliqué. Un rassemblement de croyants. De croyants. Il n'y a que les croyants qui sont scellés d'esprit. Ceux qui simplement confessent le nom du Seigneur ne sont pas forcément des croyants. Ceux qui récitent des credos, tout ça, ne sont pas forcément des croyants. J'ai récité des credos toute ma jeunesse quand j'étais catholique. Je n'étais pas croyant pour autant, je n'étais pas catholique pour autant, pas converti pour autant. Non, c'est le cœur, je regarde au cœur. Je regarde au cœur et le Seigneur voit son assemblée composée de croyants, croyants du cœur. Croyant du cœur et acceptant la pensée de Dieu à cet égard. C'est pour ça que lorsque nous sommes assemblés et que nous voyons quelqu'un qui voudrait se joindre à nous, il faut quand même que nous soyons certains que c'est un croyant. C'est nécessaire. Nous ne pouvons pas nous rassembler, si nous voulons le faire en vérité, nous rassembler avec un incrédule ou un simple professant. Quelqu'un qui se conforme, voilà, Je prends l'exemple de l'Assemblée. Les jeunes gens élevés depuis leur enfance, leur prime enfance dans le rassemblement, ben oui, mais bon, il y a assez longtemps qu'ils sont là. Alors ils arrivent à 18 ans, à 19 ans, ils demandent à leur copain. Alors c'est voilà, puisqu'on les connaît bien, puisqu'ils sont là, ils ont été élevés là. Il faudrait quand même savoir si ce sont des croyants. Il faudrait savoir s'il y a eu une conversion réelle dans les cœurs. Il faudrait savoir. Nous trouvons, parce qu'on me pose quelquefois la question, mais où y a-t-il un texte qui nécessite, qui montre qu'un examen est nécessaire? Alors je dis qu'il existe ce texte dans Esdras. Dans Esdras, au chapitre 2. La liste, au chapitre 2, nous avons la liste de ceux qui sont remontés de Babylone après l'édit de Cyrus. Alors, il y avait là des hommes du peuple, au verset 2, il y avait là des sacrificateurs, au verset 36, il y avait des lévites, au verset 40, il y avait des chantres, il y avait des fils des portiers, au verset 42, il y avait des étiniens, au verset 43. Et puis au 59, nous voyons ceux qui montèrent de tel Mélac, de tel Arasa et des Kérubadans d'Imer, mais ils ne purent pas montrer leur maison de père et leurs descendants, s'ils étaient d'Israël, les fils de Delaïa, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, etc., 652. Et puis au verset 62, ceux-ci cherchèrent leur inscription généalogique, mais elle ne se trouva pas. Et ils furent exclus comme profanes de la sacrificature. Et le Tirshatha leur dit qu'ils ne devaient point manger des choses très saintes jusqu'à ce que fût suscité un sacrificateur avec les urines et les tumimes. Voilà un ensemble d'hommes qui est parti de Babylone avec les autres, et sans doute plein de bonne volonté, et ils ont fait le chemin, un long chemin, pour arriver à Jérusalem, dans l'intention de reconstruire la maison de Dieu. Et voilà que là, on leur demande leur généalogie. Ils ne peuvent pas le montrer. Ils ne peuvent même pas montrer qu'ils sont fils d'Israël. À plus forte raison, ils ne peuvent pas montrer qu'ils sont sacrificateurs. Et le Tirshatha ne leur dit pas qu'ils ne sont pas sacrificateurs. Mais il leur dit, puisqu'ils ne peuvent pas le montrer, et bien qu'ils ne doivent pas manger des choses très saintes. Eh bien, nous pouvons être confrontés à de tels cas. Des personnes qui veulent marcher avec nous, sans doute. Bon, ben, attendons. Voyons s'ils sont vraiment convertis. Voyons s'ils sont vraiment sûrs de leur salut, s'ils sont scellés d'esprit. Voyons-le, attendons pour voir. Ne disons pas qu'ils ne sont pas croyants, on ne sait rien. Alors, les quantités de personnes qui se disent chrétiens, je ne dirais pas qu'ils ne le sont pas. Mais il faut voir. Il faut le voir. Alors, voir la chose, ça demande bien sûr un certain temps, une certaine connaissance, une certaine fréquentation. Ça ne peut pas se faire d'un instant à l'autre, vous savez. C'est nécessaire. C'est nécessaire si nous voulons être fidèles au Seigneur. Ceux qui entourent la table du Seigneur sont des sacrificateurs. Sacrificateurs de louanges, sans doute, mais sacrificateurs. Et Dieu le Père en cherche de tels. Qu'il puisse le louer, qu'il puisse lui rendre grâce. Oui. Et nous ne pouvons pas inciter les âmes à se joindre à cela si nous ne voyons pas qu'il y a vraiment une conversion en eux. Est-ce qu'il n'y a pas le risque pour cela, que nous recevrions légèrement, est-ce qu'il n'y a pas le risque pour eux de manger indignement? Nous connaissons ce passage dans les Corinthiens 11, hein, disons-le quand même. Il y a là quelque chose de très solennel, auquel nous ne nous attardons pas tellement, souvent. Nous regardons le 10, nous regardons le passage où l'apôtre rappelle l'institution de la scène, mais dans le chapitre 11, il est dit, verset 27, « Ainsi quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement, sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. Et que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et qui boit mange et boit un jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps. Se rend pas compte que la coupe et le pain qui sont là sur la table, eh bien, c'est quelque chose de très solennel. C'est le corps du Christ en symbole, bien sûr. Mais néanmoins, c'est quand même représentatif du corps de Christ, le corps séparé du sang. Nous annonçons la mort du Seigneur. Et alors, si on le fait indignement, en l'occurrence ici, c'était des âmes qui n'avaient pas compris la chose, ils avaient mêlé les choses avec un grand festin, etc. Bon. Mais plus loin, ne distinguons pas le corps. C'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous et qu'un assez grand nombre dorment. Mais si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous l'un l'autre, il était afin qu'il mange chez lui. Il y avait quelque chose d'anormal dans ce rassemblement, à savoir que la scène était prise au cours d'une agape, mais dans cette agape, il y en avait qui avaient à manger, d'autres qui n'en avaient pas. Et on ne s'attendait pas les uns les autres, signe qu'il n'y avait pas vraiment l'amour fraternel. Signe, on pourrait dire, qu'en fait, l'esprit n'agissait pas là. L'amour fraternel les aurait conduits quand même à s'attendre les uns les autres. L'amour fraternel les aurait conduits à aider ceux qui n'avaient rien. Eh bien, non, ils ne le faisaient pas. Alors, s'ils étaient là sans comprendre l'importance du lieu, sans comprendre aussi l'importance du geste qui est à faire, rompre le pain, boire à la coupe, ils mangent indignement. Et nous devons avertir les âmes qui veulent se joindre aux frères pour rompre le pain et boire à la coupe. Non, c'est quelque chose qui tient au cœur du Seigneur. C'est lui qui a institué ce mémorial la nuit où il fut livré. C'est pas n'importe quelle nuit, c'est pas une décision comme ça, c'est la nuit où il fut livré. Ça, c'est donc tout nous rappelle sa mort, ses souffrances, le fait de la révolte de l'homme contre lui, le fait de cette mise à mort sur la croix, dont il est dit « Maudit quiconque est pendu au bois », le fait qu'il ait été abandonné de Dieu. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tout nous est rappelé là, lorsque nous avons devant nous le pain et la coupe. Mangeons pas avec un esprit léger ce pain et cette coupe. Et soyons sérieux, et c'est un service solennel. Nous risquons dans nos temps de manquer de cette solennité et de faire comme si c'était une distraction. Nous avons en fait l'esprit imbibé de distraction. Donc c'est quelque chose de très solennel. Alors nous devons y prendre garde. Et si donc quelqu'un veut s'approcher, que l'on sache s'il est vraiment croyant scellé de l'esprit. Nous faisons en général pour ceux qui viennent, comme on dit, du dehors, on essaye de s'informer, mais nous devons aussi, je pense, le faire pour ceux qui sont nés dedans. Nos enfants, ceux qui ont vécu avec nous depuis leur enfance, et savoir s'il y a eu vraiment conversion et compréhension de ce qu'est le salut en Christ. Voilà donc ce psalmiste qui va parler encore de Jérusalem, c'est là que montent les tribus de Jacques, un témoignage à Israël pour célébrer le nom de l'Éternel. Donc nous sommes appelés, nous, à célébrer le nom du Seigneur, car pour nous l'Éternel c'est le Seigneur. Car là sont placés les trônes de jugement, les trônes de la maison de David. Voilà aussi une pensée extrêmement sérieuse, solennelle. Les trônes de jugement. Dans une assemblée, dans une ville comme Jérusalem, par exemple, il fallait une justice. Et il fallait des juges. Le roi était chargé de juger. C'est le roi qui devait juger les faits difficiles, n'est-ce pas? C'est lui qui donnait son avertissement. Salomon, nous le savons, a été placé devant un problème difficile à régler avec les deux femmes qui se disputaient un enfant. Il a eu la sagesse de répondre à ce besoin lorsqu'il a fait apporter une épée, il a dit qu'elle coupait en deux. Alors la mère a dit non, non, donnez-le à l'autre. Salomon avait une sagesse plus grande que tous les rois de son temps. Il n'empêche que c'est lui qui a amené l'idolâtrie en Israël. L'homme ne peut pas compter sur lui. Jamais compter sur l'homme. Alors Salomon donc était chargé de juger, les rois étaient chargés de juger, c'est pourquoi il est question des trônes de la maison de David. Là sont placés les trônes de jugement, les trônes de la maison de David. Nous sommes aussi chargés de juger dans l'Assemblée. On dit ne jugez pas. Ne jugez pas, c'est dit dans Matthieu, c'est vraiment sur la montagne. Je pense que le mot juger a deux sens. Il y a juger, condamner, juger, peser les choses. Je ne suis pas moi que chargé de condamner mon frère. Et si même nous sommes appelés à juger d'un fait malheureux, comme à Corinthe, ils étaient appelés à juger incestueux, nous pouvons le faire sans condamner dans notre cœur. Nous le faisons parce que Dieu demande que nous le fassions. L'incestueux, les fornicateurs, les idolâtres, tout cela devait être excommunié, c'est-à-dire mis hors de communion. On ne pouvait plus avoir communion avec eux. On ne devait plus manger même avec un tel homme. Mais cela ne voulait pas dire que dans notre cœur, nous devions condamner un tel homme. En nous croyant supérieurs à lui, c'est toujours le danger qu'il y a. Il ne s'agit pas de se croire supérieur avec à celui qu'on est obligé de mettre dehors. Et on est quand même obligé de le faire. Pour son bien. Pour son bien, et souvent la chose n'est pas comprise, mais pour son bien. L'incestueux, donc, a été mis sur l'ordre de Paul, sur les indications de Paul, a été mis hors de communion. Et puis dans la seconde aux Corinthiens, que voyons-nous ? Eh bien voilà un homme qui risquait d'être écrasé par une tristesse excessive à cause de l'attitude du grand nombre. Alors Paul va dire, bon ben maintenant, voilà, ratifiez votre amour envers lui. Ratifiez votre amour. Ce n'était pas retrouver l'amour, c'était le ratifier. L'amour n'avait pas cessé. Et en fait, nous ne devons pas, notre amour ne devrait pas cesser envers un frère que nous sommes obligés de mettre dehors. Non, notre amour ne devrait pas cesser. Mais nous ne devons pas le ratifier tant que celui-ci n'a pas confessé sa faute. Lorsqu'il n'y a pas eu repentance, lorsqu'il n'y a pas eu un travail de restauration, nous ne pouvons pas ratifier cet amour. Nous sommes obligés de nous tenir assez loin jusqu'à ce qu'il soit restauré alors à ce moment-là. Nous pouvons à nouveau l'appeler frère. On apprend que Paul l'appelle frère, n'appelle même pas au début de la seconde. Cet homme ne l'appelle pas frère. Il ne l'appellera pas frère jusqu'à ce qu'il soit restauré. C'est une chose qu'il nous faut comprendre parce que c'est essentiel à la vie d'une assemblée. S'il n'y a pas de discipline dans une assemblée, bon ben ça va être l'anarchie. Chacun va faire ce qui semble bon à ses yeux. Et alors, ce sera la moralité qui s'entendra, la moralité. La moralité, n'est-ce pas, qui rentrera dans l'Assemblée, hein, et chacun fera ce qu'il veut. Et il n'y aura plus d'autorité pour agir, il n'y aura plus. Est-ce que les faits quand même ne se réveilleront pas et ne se réuniront pas pour dire, mais enfin, nous ne pouvons pas quand même tolérer cela. L'Écriture nous condamne. Si on laisse faire trop longtemps, le sentiment de la sainteté qui sied à la maison de Dieu disparaîtra de nos consciences. Ça, c'est très solennel, n'est-ce pas? Nous n'aurons plus conscience du mal. Et nous arrivons déjà dans le monde, dans des temps où on appelle le mal bien et le bien mal. C'est clair, je crois que c'est clair autour de nous. Il y a des choses abominables autour de nous qui se pratiquent et que les hommes trouvent bien. Prenons simplement l'avortement qui est un crime. C'est un crime, on tue un enfant dans le ventre de sa mère. C'est un crime. Non seulement on trouve que c'est bien, on le rembourse, on ne va pas sur le marché. Nos impôts servent à rembourser cela. C'est quand même quelque chose d'impensable. Israël a été condamné parce qu'il faisait passer ses fils par le feu. C'était le feu à l'idole de Baal, de Moloch. Pourquoi le faisait-il? Mais pour avoir une aisance de vie. Il pensait que l'idole allait leur donner cette aisance de vie. Pourquoi des parents de nos jours suppriment un enfant qui va naître? Et pour avoir une aisance de vie. Pour pouvoir être libre, faire ce qu'ils voulaient. Et Dieu les condamne. Et Dieu les condamne, n'est-ce pas? Et n'oublions pas que quand même, la chose pèse sur la conscience. J'ai, il y a quelque temps, confession d'une vieille dame, elle a 78 ans, et elle me dit un jour, elle avait bien des malheurs, son mari était mort jeune, il avait 46 ans, elle avait un fils qui était disparu à la guerre, un autre qui avait été blessé en Indochine, et elle a été un peu écrasée par le chagrin, Et puis quand même, elle me disait, mais je me demande, vous savez, je me demande si Dieu ne punit pas. Bon, je me donnais des paroles de consolation, je ne sais pas ce que j'ajoutais. Alors elle me raconte que donc, elle s'était fait avorter. Eh bien, sans doute, elle avait 35 ans, peut-être à ce moment-là. Eh bien, 78 ans, elle pense encore. Ce n'était pas passé de sa conscience. Même semaine, je rencontre une vieille sœur. Une vieille sœur, une vraie chrétienne. Je ne sais pas pourquoi, elle a du ménage à peu près. Je ne sais pas pourquoi elle a eu besoin de me raconter aussi qu'avant qu'elle soit convertie, elle s'était fait avorter. Bon, mais elle était chrétienne. Alors, elle avait confessé la chose au Seigneur, c'était réglé. C'était réglé, mais il n'empêche qu'elle m'en parlait quand même. Ça reste sur la conscience. C'est une blessure qui reste sur la conscience des femmes. Et nous pouvons bien avertir celles que nous rencontrons autour de nous, hein, qu'il y a là un crime très grave et que ça marque la conscience. Eh bien, dans le monde, on pousse les gens à se faire avorter finalement. Au lieu de leur proposer d'autres solutions, de faire élever leurs enfants, de les faire, comment dirais-je, adopter par d'autres, non, elle est tuée. Voilà où nous en sommes dans nos civilisations chrétiennes, christianisées, disons. Voilà où nous en sommes. Et quantité d'autres choses abominables, n'est-ce pas ? Comme nous voyons aussi l'homosexualité étalée. Les journaux qui parlent d'homosexualité. L'homosexualité qui peuvent se marier, qui peuvent même adopter des enfants. Mais c'est un crime. Dans l'Écriture, c'est un crime. L'homosexuel était mis à mort. Non, si maintenant, enfin, ils peuvent bien avoir une vie normale, ces gens, comme s'ils étaient normaux. Ce sont des gens qui vivent dans un péché très grave, le péché de Sodome. Le péché de Sodome, et Sodome a été détruite à cause de ce péché-là. Il nous faut quand même un peu réagir contre le monde. Je ne dis pas qu'il faille faire des croisades, on n'y arrivera pas au bout. Hein. Mais dans nos pensées et dans notre entourage, il faut quand même réagir contre la pensée du monde. Sinon, nous allons aussi arriver à trouver que ma foi, bon, c'est pas si grave que ça. C'est très grave. Alors, ils vont y penser. Alors, il fallait des trônes de jugement dans la ville pour qu'elles soient maintenues en bon état. Trônes de jugement. Et puis, verset 6, alors, voilà une incitation à la prière. Demandez la paix de Jérusalem. Ceux qui t'aiment prospéreront. Que la paix soit dans tes murs, la prospérité dans tes palais. Demandez la paix de Jérusalem. La paix soit dans tes murs. Pas en dehors des murs. L'ennemi peut venir. Si la paix est dans les murs, l'ennemi peut venir, il sera vaincu. Mais si la paix n'est pas dans les murs, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Et ça, ils vont tirer le sang aussi. Nous sommes appelés à marcher dans l'unité. On pourrait dire, une assemblée qui sera unie, bien unie ensemble, elle peut résister aux assauts de l'ennemi. Une assemblée qui est divisée à l'intérieur d'elle-même, qui n'a pas la paix à l'intérieur d'elle-même, eh bien, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Il y a actuellement un grand danger dans nos assemblées à cet égard. Et nous devons en prendre conscience. Que la paix soit dans tes murs. Et il ajoute au verset 8, « À cause de mes frères et de mes compagnons, je dirais que la paix soit en toi. » Et il y a là deux mots que j'aimerais souligner, c'est « À cause de mes frères et de mes compagnons, je dirais que la paix soit en toi. » À cause de mes frères, oui, nous marchons avec les frères. Dans Jérusalem, il y avait donc les Juifs qui étaient là, n'est-ce pas, c'était des frères. Et nous marchons aussi avec les frères. Alors à cause de mes frères, quels sont les frères? Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, qui ont cru de leur cœur au Seigneur Jésus, sont mes frères. C'est ce qui est écrit dans la première épître de Jean. Et ne passons pas par-dessus ce texte. Première épître de Jean, au chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui a engendré, aime aussi ce qui est engendré de lui. Voilà. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Donc tous ceux qui sont croyants de cœur, c'est les esprits, sont les frères. L'autre chose, à cause de mes frères et de mes compagnons. Et les compagnons, ce sont des frères aussi, mais des frères d'une autre relation, d'une relation plus proche, les compagnons. Ce sont ceux avec lesquels, étymologiquement, ceux avec lesquels nous partageons le pain. Nous mangeons le même pain. Voilà les compagnons. Alors le psalmiste demande la paix dans Jérusalem à cause des frères, de tous les frères, ceux qui étaient à Babylone, ceux qui étaient déjà revenus, mais il demande aussi à cause de mes compagnons, ceux avec lesquels il était venu, ceux avec lesquels il vivait, ceux avec lesquels il partageait le pain. Ça doit être aussi notre pensée. Nous avons un témoignage à rendre auprès de tous les frères. L'Assemblée a un témoignage qu'elle devrait, dans sa vie, par sa vie même, elle devrait même être un témoignage à tous les frères. Et puis, il y a les compagnons, ceux avec lesquels nous partageons le pain. Nous devons penser à tous. Nous ne pouvons pas recevoir tous les frères. Il y a bien des points sur lesquels nous ne pourrions pas marcher ensemble. Mais nous pouvons penser au témoignage que nous avons à rendre devant eux, la paix dans Jérusalem, à cause de mes frères et de mes compagnons, la paix pour que ceux qui sont nos frères avec lesquels nous ne pouvons pas marcher puissent quand même considérer que là, et bien là, il y a la paix, une paix de Dieu, une paix produite par le Saint-Esprit, à cause de mes frères et les compagnons. Sont ici. Les compagnons sont autour de la table. Voilà les compagnons. Et je dirais que la paix soit en toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je rechercherai ton bien. Nous avons là une série d'exhortations qui étaient pour Jérusalem, mais que nous pouvons bien transposer pour notre usage personnel, collectif en assemblée, et savoir qu'il y a là un témoignage qu'il faut rendre. Nous pensons quelquefois que nous ne sommes pas connus du petit nombre. Il est vrai que nous sommes le petit nombre, c'est certain. Mais ceux qui étaient rentrés de Babylone à Jérusalem, combien étaient-ils? Même pas 50 000, c'est dit au début de sa race, c'est ça. Même pas 50 000, alors que David, au temps de sa splendeur, pouvait réunir 470 000 hommes, d'armes, des hommes donc qui avaient plus de 20 ans, pour combattre. Voilà, ceux qui rentrent à Jérusalem de Babylone, même pas 50 000. C'était un petit nombre. Un petit nombre ignorait. Ignorait les peuples antiques. Oui, mais n'ont pas ignoré les ennemis. N'ont pas ignoré de Dieu, mais n'ont pas ignoré les ennemis qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer d'empêcher ce retour, empêcher de construire la maison. Ça. Eh bien, ne croyons pas que nous soyons ignorés comme nous le pensons. Il y aurait du monde qui nous entoure, les gens sont bien trop occupés à leur distraction pour s'occuper de nous sans doute. Mais il y en a un qui n'ignore pas, qui ne nous ignore pas, c'est Satan. Satan, c'est l'ennemi de tout ce qui vient de Dieu, et particulièrement l'ennemi de l'unité manifestée autour de la table du Seigneur par la fraction du pain. Satan, c'est le diable. On peut traduire du grec par diviseur. L'Apocalypse est appelé l'accusateur des frères. Il est appelé le calomniateur. C'est donc celui qui toujours essaie de séparer ce que Dieu a uni. Satan veut toujours le séparer. Et lui, il sait qu'ici il y a un témoignage. Il le sait. Et il fera tout son possible pour le détruire. Satan fait toujours son possible pour empêcher de dresser une table. Quand la table est dressée, il fera tout son possible pour qu'elle soit supprimée. Et nous devons être sur nos gardes constamment. Parce que, je lis encore quelques versets, dans le psaume 133 et 134, où il y a une exhortation pour nous. Constatation d'abord, psaume 133. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête qui descendait sur la barbe d'Aaron. Qui descendait sur le bord de ses vêtements, comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors voici, qu'il est bon, qu'il est agréable, que des frères, nous voyons ici l'article partitif, ce n'est pas les frères, hein, c'est des frères, que des frères habitent unis ensemble. Il ne s'agit pas seulement qu'ils habitent ensemble, on peut être ensemble et avoir une vie très pénible, parce qu'on ne s'entend pas. Il s'agit des frères unis ensemble, et des frères, parce que si on attend que tous les frères soient d'accord pour se réunir, il n'y aura pas de témoignage établi, bien sûr. Mais eux, ils étaient arrivés là, quelques-uns, à Jérusalem, ils n'ont pas attendu que les autres viennent. Nous voyons ça dans le livre d'Esdras. Ils se sont trouvés là, 50 000, pour reconstruire la maison de Dieu. Bon, ben, ils ont commencé. Ils n'ont pas attendu que le reste, qui était quelques millions, sans doute, soit venu. Ils ne sont pas venus, d'ailleurs, les autres, jamais. Mais des frères habitent unis ensemble, voilà. C'est bon et c'est agréable. Ça, nous le savons. Nous le savons par expérience, je pense, à peu près tous. Quand les frères ne sont plus unis, ben, c'est plus bon et agréable. C'est sec, c'est la sécheresse. Mais là, c'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête qui descendait sur la barbe d'Aaron, qui descendait sur le bord de ses vêtements. C'est une allusion au fait que Aaron est loin d'huile. Moïse versait l'huile sur la tête d'Aaron, descendait sur sa barbe, sur le bord de ses vêtements. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Donc, quand on reconsidérait Aaron, on voyait l'huile. Quand on considère le Seigneur, comment le voit-on? On le voit par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit, et par l'action du Saint-Esprit dans un rassemblement, par exemple, ou dans la vie des croyants. Nous pouvons contempler le Seigneur par l'action qu'il a chez ceux qui sont siens. Et cette action, c'est l'action du Saint-Esprit. Et alors, nous voyons le Seigneur, nous voyons que le Seigneur est là, agissant au milieu des frères. C'est l'huile qui descendait sur le bord de ses vêtements, comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. La rosée rafraîchit, la rosée arrose, justement. La rosée est utile pour redonner vie aux plantes. La rosée qui descendait de l'Hermon autour de montagnes de la région, descendait sur les montagnes de Sion. Sion, la ville de David. Eh bien, le fait que les frères habitent unis ensemble, c'est rafraîchissant comme la rosée de l'Hermon. Il y a un rafraîchissement à se trouver avec des frères bien unis ensemble. Et c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il n'y a que là qu'il puisse y avoir bénédiction, la vie pour l'éternité. Eh bien oui, il n'y a que là. Parce que dans un instant, le Seigneur va venir sur la nuit. Parce que dans un instant, tous les siens seront enlevés à sa rencontre. Et alors ces choses-là, de psaume 133, seront réalisées parfaitement. Et là, il y a la vie, la bénédiction et la vie pour l'éternité. Dans ce rassemblement autour du Seigneur. Ce n'est pas le rassemblement seulement des deux ou trois, ce sera le rassemblement de tous ceux qui sont à lui. Alors il y aura la vie, la bénédiction pour l'éternité. Et puis, au psaume 134, il y a quelque chose de très beau aussi. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous les serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez durant les nuits dans la maison de l'Éternel. Élevez vos mains dans le lieu saint, bénissez l'Éternel. Que l'Éternel qui a fait les cieux et la terre te bénisse de Sion. C'est la louange, n'est-ce pas? C'est la louange et la bénédiction. Mais je me suis demandé un jour, vous tenez durant les nuits dans la maison de l'Éternel. Pourquoi la nuit, justement? Eh bien, la réponse est dans Lévitique, chapitre 6. Je vais voir le verset. L'Éternel parla à Moïse, disant, commande à Aaron et à ses fils en disant, c'est ici la loi de l'Holocauste. C'est l'Holocauste. Il sera sur le foyer, sur l'autel, toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu de l'autel brûlera sur lui. Et le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra sur sa chair ses caleçons de lin, et il lèvera la cendre de l'Holocauste que le feu a consumée sur l'autel et la mettra à côté de l'autel. Il ôtera ses vêtements, revêtira d'autres vêtements, et il emportera la cendre hors du camp en un lieu pur. Et le feu qui est sur l'autel, il brûlera. On ne le laissera pas s'éteindre. Et le sacrificateur allumera du bois sur ce feu chaque matin et y arrangera l'Holocauste et y fera fumer les graisses des sacrifices de prospérité. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. On ne le laissera pas s'éteindre. Dans les premiers versets, nous avons vu que le feu de l'autel, il sera sur le foyer de sur l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et vous voyez là, c'est le rappel du sacrifice du Seigneur. On peut très bien imaginer une vie détruite, je suppose. Plusieurs d'entre nous en ont vu sans doute beaucoup dans la guerre. Tout est rasé, n'est-ce pas? Il n'y a plus de. Voilà. Il y a des maisons, des monceaux de ruines. Jérusalem était ainsi et sera encore ainsi. Et ceux qui sont dans cette ville, ils palpotèrent. Et ils voient sur la montagne de Morija, ils voient dans la, là où doit se trouver la maison de Dieu, ils voient un feu. Et c'est l'autel de l'Holocauste. Au milieu de la nuit, il y a une lumière, il y a une lueur, n'est-ce pas ? Et ceux qui sont les croyants savent que c'est le feu de l'Holocauste. Ils ont là, devant eux, ils ont là le feu qui représente l'Holocauste qui est pour nous, et le Christ, le Seigneur Jésus, qui s'est offert lui-même en Holocauste. Eh bien, voilà, ce sont ceux qui sont arrivés au psaume 133, n'est-ce pas, pour louer l'Éternel. Ils ont le service de maintenir le feu de l'Holocauste au travers de la nuit. Est-ce que vous ne pensez pas que les frères ont reçu ce service dans la nuit de ce monde, maintenir le feu de l'Holocauste, maintenir une lueur, une lumière dans un monde qui est complètement plongé dans l'obscurité morale? Est-ce que nous n'avons pas cette responsabilité de maintenir une lueur? Une lumière de Dieu. C'est l'Holocauste qui brûle. C'est pas n'importe quelle lumière, c'est pas un fagot, c'est l'Holocauste, n'est-ce pas? L'Holocauste qui brûle. Alors, je pense, moi, pour ma part, que c'est la responsabilité qui incombe aux frères qui se réunissent au nom du Seigneur, maintenir ce que le Seigneur nous a confié, maintenir l'Holocauste. L'Holocauste brûlant dans la nuit de ce monde, si bien que si quelqu'un cherche un point de repère, il peut dire, tiens, là, il doit y avoir quelque chose. Là, il y a une lumière. Se dirigera-t-il vers cette lumière?
Thank you. Sous la poignée.